soit au réparant de tel son, d'abord au livre des nombres. Nous aimerions, avec le secours du Seigneur, considérer l'histoire d'un homme de Dieu qui est rempli d'intérêt, d'encouragement, et bien fort à nous relever, à nous stimuler, car le Seigneur nous a donné l'histoire de tels hommes comme exemple. Derrière, faut-il me dire, le modèle incomparable que nous avons à suivre, mais Paul dira lui-même, porter le regard sur ceux qui marchent ainsi. Nous nous rendons à parole de Dieu au chapitre 3 du livre des Nombres. Et ce sont ici les générations d'Aaron et de Moïse au jour que l'Éternel parla à lui sur la montagne de Sinaï. Et ce sont ici les noms des fils d'Aaron, le premier-né Nadab et Abihu, et Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, les sacrificateurs oints, qui furent consacrés pour exercer la sacrificature. Et Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils présentèrent un feu étranger devant l'Éternel dans le désert de Sinaï, et ils n'eurent point de fils. Et Éléazar et Ithamar exercèrent la sacrificature en présence d'Aaron le frère. Au verset 11, « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Et moi, voici, j'ai pris des Lévites du milieu des fils d'Israël, à la place de tout premier-né d'entre les fils d'Israël qui ouvrent ma fils. Et des Lévites seront à moi, car tout premier-né est à moi. Le jour où j'ai frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte, je me suis sanctifié tout premier-né en Israël. Depuis l'homme jusqu'à la bête, ils seront à moi. Je suis l'Éternel. » Au verset 29, les familles des fils de Kéath campèrent à côté du tabernacle vers le midi, et le prince de la maison de père des familles des Kéathites était Élie Safran. Et leur charge était l'arche et la table et le chandelier, les autels et les ustensiles du lieu saint avec lesquels on fait le service, et le rideau, le voile et tout le service qui s'y rattachait. Et le prince des princes des Lévites était Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Il était établi sur ceux qui avaient la charge du lieu saint. Nous tournons la page au chapitre 4. Au verset 16. Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile luminaire et de l'encens des bronzes odoriférantes et de l'offrande de gâteaux continuels et de l'huile de l'onction, la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qui y est du lieu saint et de ses ustensiles. Nous en restons là pour le moment. Quand Dieu, selon sa promesse, fait sortir les armées d'Israël du pays d'Égypte, il le fait en maintenant toutes les exigences de sa gloire. Comment aurait-il dû délivrer, sauver ce peuple alors qu'il participait à l'idolâtrie déjà dans ce temps-là des nations, des Égyptiens notamment? Mais Dieu fournit dans sa grâce, dans son amour, à sa justice, la ressource nécessaire. Il avait un agneau, il fallait un agneau. Dieu nous parle d'un seul agneau, bien qu'il y eut une multitude d'agneaux offerts pour la part de l'Éternel, mais Dieu nous parle d'un agneau, de l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde, et qui un jour allait accomplir l'œuvre de notre rédemption, mais entièrement à la gloire de Dieu, de sorte que, déshonoré par l'homme, depuis le commencement, un homme, l'homme des conseils de Dieu, celui qui est venu du ciel, participant au sang et à la chair, mais sans péché, celui-là glorifie Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin de sa carrière, le glorifie dans sa vie, le glorifie dans sa mort. Maintenant, Dieu et banquier, anticipant l'œuvre de la croix, dans la honte, faisant briller sa gloire et rétablissant la gloire de Dieu, la portant au sommet incomparable. Ce qui fera dire à nos chers devanciers, la moisson de gloire recueillie par Dieu dans le champ de la rédemption dépasse infiniment celle que nous lui avons dérobée dans le champ de la création. Dieu, désormais, est redevable de sa gloire un homme. Et il peut bénir l'homme. Il peut, avec le Fils de l'homme, bénir ceux qui, par grâce, sont passés au pied de la croix et sont au bénéfice de l'aspersion du sang. Sang de l'agneau qui déjà pouvait faire dire à Dieu dans ce jour-là, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. La conséquence, c'est que nous appartenons à Dieu, nous avons été achetés à prix. Et le chapitre 13 du livre de l'Exode commence de cette manière, « Sanctifie-moi tout premier-né, car il est à moi. » Tous les premiers-nés, la vigueur du peuple, ce qu'il y avait de meilleur, avait été épargné en vertu du sang, avait été épargné de l'épée tenue dans la main de l'ange destructeur. Il n'avait pas manqué d'opérer ce jugement terrible sur les Égyptiens, mais dans les maisons des fils d'Israël, là où le sang avait été aspergé sur la porte, l'ange était passé par-dessus. Mais désormais, Dieu peut dire, sanctifie-moi tout premier-né, ce qu'il y a de meilleur. La partie vigoureuse de ce peuple, désormais, ce peuple est à moi dans ce qu'il a de meilleur. Pour me servir, nous avons été sauvés, l'un et l'autre, jeunes ou plus âgés, qui que nous soyons, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère qui vient. Mais tous, nous avons été sanctifiés, mis à part, pour servir Dieu, pour être des serviteurs du Dieu vivant, après avoir été au service du moi, au service de la chair. Désormais, nous servons le Seigneur Christ, nous servons ce Maître qui nous a acquis pour lui au prix de ses souffrances et de sa mort sanglante sur la croix. Mais à un moment donné, et pour des raisons qu'il serait trop long d'évoquer maintenant, à un moment donné, Dieu change de disposition à l'égard des premiers-nés sur la montagne, notamment quand le peuple s'est engagé si inconsidérément, méconnaissant ce qu'il était en lui-même, sa faiblesse, proclamant qu'il voulait mériter la bénédiction que Dieu voulait lui donner, en disant tout ce que l'Éternel a dit, nous allons le faire, et nous serons ainsi en mesure de recevoir dignement ce que Dieu veut nous donner. Quel mépris de la grâce de Dieu, quel oubli de ce que nous sommes en nous-mêmes. Qui parmi nous pourrait encore affirmer qu'il peut quoi que ce soit pour recevoir de la part de Dieu une part de son salut? Tous avons-nous, et c'est essentiel, indispensable, et combien heureux pour l'âme lorsqu'elle arrive à cette conclusion donnée par le prophète, finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans ses narines. Méconnaissant ce qu'ils étaient, s'attribuant des mérites, Dieu passe à la famille de Lévi, choisit la famille de Lévi, une des 12 tribus de la famille de Jacob, pour être ceux qui remplacent les premiers-nés et ceux qui vont occuper au milieu du peuple d'Israël une place de privilège particulièrement élevée. Et au sein de cette famille de Lévi, qui comportait 3 fils, Dieu prend Aaron et en fait le chef de la famille sacerdotale. Au milieu de la grande famille de Lévi, qui représente les premiers-nés d'Israël, qui représente le peuple qui pourra désormais avoir Dieu pour son Dieu et servir Dieu, il y a au milieu d'eux une petite famille particulièrement privilégiée, nous répétons, Aaron et ses fils, pour exercer la sacrificature. Autrement dit, pour entrer dans la présence de Dieu et lui rendre un culte tel qu'il le désirait, tel qu'il l'avait prescrit pour ces jours-là. La famille d'Aaron est donc celle qui possèdent les privilèges les plus élevés, qui consistent à entrer dans le tabernacle qui vient d'être construit et à s'occuper de tous les saints ustensiles du service du tabernacle et offrir à l'autel ce qui, dans ce jour-là, annonce pour la foi la valeur du sacrifice qui un jour serait offert par le bien-aimé Fils de Dieu, c'est-à-dire sa vie sainte et parfaite, en holocauste, d'une part, pour la gloire de Dieu, et en sacrifice pour le péché, d'autre part, pour répondre aux besoins du pécheur, et poser le fondement sur lequel Dieu, tout en demeurant juste, glorifié, peut recevoir le pécheur, et en faire un bien-aimé racheté, l'introduire dans sa famille, une famille des premiers-nés aux privilèges incomparables. Aaron, avec ses fils, est donc choisi. Il est appelé d'ailleurs, il est dit de lui qu'il a été mis à part pour être très saint et pour occuper les fonctions les plus élevées au milieu du peuple, annonçant celles qui seraient remplies un jour par notre grand, souverain, fidèle, miséricordieux sacrificateur, bien plus grand qu'Aaron. Bien plus exalté qu'Aaron, bien plus précieux au cœur de Dieu qu'Aaron, revêtu de saints vêtements pour gloire et pour ornement, et qui annonçait dans les sept pièces dont il était revêtu les gloires variées de celui qui a traversé tous les cieux et qui maintenant paraît pour nous devant la face de Dieu. Au jour où le sacrifice, les sacrifices sont offerts pour la consécration de la relation que Dieu établit avec son peuple en Lévitique 9, nous assistons à une scène grandiose pour montrer l'acceptation du sacrifice qui parle, faut-il le répéter, du grand sacrifice qui un jour serait offert à l'autel du calvaire sur la croix. Le feu descend du ciel et vient consumer l'Holocauste. Et par ce feu, allumé sur l'autel, les fils d'Aaron, chacun, doivent allumer leur encensoir dans lequel il y a l'encens pour présenter à Dieu toutes les dignités, toutes les grâces de son Fils, tout ce que l'encens représente. Nous essayons d'en dire deux mots tout à l'heure. Mais, nous l'avons lu dans le chapitre 3 du livre des Nombres, nous venons d'ouvrir la parole de Dieu, hélas, nous établissons le parallèle avec le commencement de l'Église, avec Ananias et Saphira. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme et que l'homme n'a pas gâté? Dans toutes les économies, dans toutes les dispensations, à qui Dieu a-t-il confié quelque chose? Et ce quelqu'un qui était responsable, venant dire à Dieu, voilà, je te rends ce que tu m'as confié. Qui a pu le faire? Ni Adam, ni Aaron, ni Salomon, ni Nebuchadnezzar, tout ce que Dieu a placé dans nos mains, tout a été perdu, tout a été gâté. Mais il y en a un qui relève ce qui est tombé, qui le reprend dans sa main et qui le fait refleurir. Et c'est de lui quelle parole précieuse qu'il est dit, lui va remettre le royaume dont il aura l'administration tout à l'heure, il va le remettre à son Dieu et Père, dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur, car à ce royaume il n'y aura pas de fin. Et dédié à l'accroissement de son empire et à la paix, tout à la fois, il n'y aura pas de fin. Il le remettra dans toute sa gloire. Et la couronne qui a été placée sur sa tête sera toujours plus belle. Sur lui seul, peut fleurir la couronne aux plusieurs diadèmes que Dieu a posés sur sa tête en le saluant selon l'ordre le plus élevé, selon le rang de Melchisédek. Bien au-dessus de celui d'Aaron. Hélas, les deux fils d'Aaron, les deux aînés, et qui se sont trouvés privilégiés d'une manière extraordinaire, en étant associés à Moïse et à Aaron leur père sur la montagne en Exode 24, on peut relire ces passages si intéressants, et ils ont vu, ils ont été les spectateurs de la gloire de Dieu. Et déjà dans cette scène mystérieuse, il est question de ses pieds, il est question de ses mains, il est question du ciel même en pureté sous ses pieds, et sa main, il ne la porte sur aucun d'entre eux, bien que ce fût redoutable de monter sur la montagne en la présence de Dieu. Mais il est question de ses pieds, il est question de ses mains. Il annonce qu'un jour, en vertu de la sainte humanité qu'il allait revêtir, de ses pieds et de ses mains qui seraient percés sur la croix, un chemin nouveau, vivant, serait ouvert pour monter, non plus à Sinaï, mais sur la sainte montagne de Sion, la montagne de la grâce de Dieu. Ces deux hommes, Nadab et Abihu, ces privilégiés, qui étaient frappés par le jugement, ont allumé un feu étranger pour alimenter leur encensoir. Et le feu du ciel, quelle scène solennelle, descend, consume ces deux sacrificateurs, les deux fils d'Aaron. N'étaient-ils pas des sacrificateurs? Certainement. N'étaient-ils pas revêtus des vêtements convenables que la gloire de Dieu exigeait? De la même manière, certainement. Mais comme le feu du ciel était descendu à l'autel pour manifester que la victime était agréée, et qu'en vertu de cette victime, Dieu pouvait consacrer ce peuple pour lui-même, faire bénéficier la sacrificature, la famille d'Aaron des privilèges les plus élevés, de la même manière, le feu descend pour consumer ce qui est à l'opposé, ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Un culte imaginé par l'homme. Pensons-nous, chers amis, qu'aujourd'hui, qu'un culte rendu en dehors du terrain de la parole de Dieu, le culte qui a la personne de Christ comme centre, le Père pour objet, la parole de Dieu comme terrain, l'obéissance à la parole de Dieu comme terrain, la reconnaissance du seul vrai centre auquel nous avons, que nous pouvons entourer, que Dieu nous présente pour nous réunir, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Culte qui se rend dans les lieux célestes, au Père, ayant Christ comme sujet glorieux. Et le centre et la joie de ce culte tout à la fois. Les conditions étant énoncées de la manière la plus claire pour le rassemblement des croyants, pour exercer le service le plus élevé de tous, c'est-à-dire, bien entendu, le culte. Pourquoi? Pour bien des raisons sans doute, mais la sainte sacrificature a le pas sur la sacrificature royale. Pour une raison primordiale, c'est que la sainte sacrificature que nous commençons chacun dans les rassemblements auxquels nous nous rattachons avec beaucoup de faiblesse, beaucoup d'infirmité, sans doute, ce culte commencé dans la faiblesse, nous allons le poursuivre dans sa force, dans sa plénitude, dans sa gloire et pour l'éternité. Apocalypse 5 est l'aboutissement de ce culte que nous commençons aujourd'hui. Doux prélude dans la faiblesse, dans les larmes, mais doux prélude que nous connaissons, qu'il nous est accordé de connaître et dont nous pouvons jouir en attendant de le remplir dans la perfection. Tous les autres services cesseront. Mais nous pouvons nous reposer la question. Pensons-nous, chers amis, qu'un culte rendu aujourd'hui, selon l'imagination de l'homme, quelque imposant qu'il soit, et lors même qu'il serait rendu par de vrais croyants, mais du moment que le Saint-Esprit qui anime, qui forme d'abord, et qui anime le corps, car c'est comme membre du corps de Christ que nous sommes réunis à la table du Seigneur, pensons-nous qu'un culte rendu aujourd'hui, au mépris de ce que Dieu nous a enseigné de la manière la plus claire, par le Seigneur, par les apôtres, pensons-nous que ce culte soit plus tolérable aujourd'hui et qu'il rencontre moins la réprobation de Dieu, bien que le feu ne descende plus du ciel, bien entendu. Nous sommes sur le terrain de l'Ancien Testament. Il va descendre combien de fois du ciel? Il est intéressant de noter que le feu descendra 10 fois du ciel dans l'Ancien Testament. Combien va-t-il descendre 2 fois dans le Nouveau Testament? Il ne descend nullement. Sauf quand il va descendre, lui, en flamme de feu, mais pendant la période de la grâce. Il pouvait dire aux disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Y avait-il moins de raison de faire descendre le feu du ciel pour lui, qui était là, celui qui avait envoyé les prophètes, y avait-il moins de raison pour sa gloire de faire descendre le feu que pour Élie dans les jours d'autrefois? Certainement pas. Bien plus grand qu'Élie. Élie se tenait devant lui, l'Éternel devant qui je me tiens. C'était devant lui qu'il se tenait. Et c'est lui qui l'avait envoyé. Sauf que porter atteinte à la gloire du Seigneur dépassait infiniment ce qu'Élie avait pu réaliser quand il avait dit, bien, si je suis un prophète de l'Éternel, que le feu descende du ciel et te consume toi et ta cinquantaine. Si je suis un serviteur de l'Éternel, mais contre l'Éternel lui-même, son maître là, pour lui refuser la gloire à laquelle il a droit, il y avait bien de quoi demander le feu du ciel, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mais dites-moi, nous avons aussi dans le Nouveau Testament la mention d'un feu qui descendra du ciel. Et lorsqu'il descendra du ciel, ce sera pour consumer tous les esprits en flammes de feu. Car notre Dieu, ne pensons pas d'un seul instant en passant que Dieu est insouciant ou indifférent à l'égard du mal qui se passe autour de nous, car notre Dieu est un feu consumant. Eh bien, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, frappés par le feu du ciel, et ont pris un feu étranger pour alimenter leur encensoir, et ont délaissé le feu allumé à l'autel, qui manifestait le seul terrain sur lequel Israël pouvait être en relation avec Dieu, et la sacrificature remplir le saint office qui lui était déchu. Le feu descendu sur eux. Quelle scène tragique. Bien, chers amis, c'est le commencement de l'histoire que nous aimerions parcourir rapidement avec vous, celle d'Éléazar. Il est donc le troisième fils d'Aaron. Il n'était pas sur la montagne en Exode 24. Ses deux frères aînés y étaient donc d'autant plus responsables. Mais lui, Éléazar et son père Itamar ont assisté à cette scène, et on peut facilement imaginer quels étaient les sentiments de ces deux frères en voyant leur frère frappé par le feu du ciel, étendu sans vie devant l'autel. Quelle scène tragique! Eh bien, cette scène va marquer cet homme de Dieu, Éléazar, pour toute sa vie. Et si nous avons le privilège de le faire ensemble, nous allons essayer de voir les grandes étapes de celle-ci, et nous allons assister à la vie, nous allons assister au déroulement de la vie d'un homme fidèle. D'un homme sans bruit, ne parle pas beaucoup, mais toujours, quand il s'agit de la gloire de Dieu, impressionné qu'il a été par ce départ dans sa vie de sacrificateur et de souverain sacrificateur par la suite, puisqu'il va remplacer son père, impressionné au plus profond de lui-même, il va garder ce souvenir intéressable de ce qu'il y a de solennel, de précieux sans doute, mais de solennel de se trouver devant Dieu. Cet homme ne dira pas beaucoup de paroles, mais agira dans chaque circonstance pour la gloire de Dieu. Et Dieu le sait, Dieu le connaît. Bien, puissions-nous tirer profit de cette histoire, et qu'il y ait encore parmi nous, parmi notre jeunesse en tout cas, de ces cœurs fidèles. Nous vivons la fin d'une économie, et nous avons besoin d'être soutenus, encouragés, relevés, pour le maintien de notre position et de notre privilège. Car les choses vont en s'affaiblissant, c'est inévitable. Le Seigneur vient, nous sommes dans un temps de petites choses. Qu'est-ce qui est propre à nous maintenir sur nos lieux élevés et à nous rendre capables de nous acquitter de ce que le Seigneur attend de nous? N'est-ce pas la jouissance de nos privilèges? Car nous ne sommes pas de conscience. Reprendre, exhorter est nécessaire, sans doute nous le savons bien. Mais nous ne sommes pas que conscients, nous avons un cœur. Et ce qui touche nos cœurs de la grâce de Dieu est bien propre à remuer aussi notre conscience et à nous accorder le saint équilibre nécessaire pour aller de l'avant, puisant dans la grâce de son cœur les forces dont nous avons besoin. Et là, à donc une histoire des plus intéressantes, disons-nous, et une des premières choses qu'il nous est dit de lui, après la scène rapportée dans le chapitre 3, c'est ce qu'il va, la fonction qu'il va remplir comme prince. Disons seulement un mot des trois familles de Gershon, verset 17 du chapitre 3 devant nous, Gershon, Kehat et Merari. Dans ces trois familles, il y avait donc le partage de tout le service du tabernacle, chacun peut le lire dans les paragraphes qui suivent, et dans chacune de ces familles, de Gershon, de Kehat et de Merari, il y avait un prince. Par voie de préférence, selon la souveraine grâce de Dieu, la famille de Kehat va occuper le premier rang. Par voie de naissance, elle est la deuxième. Gershon, Kehat, Merari. Mais Dieu va prendre cette famille de Kehat, car c'est de la famille de Kehat qu'il va créer la sacrificature. Alors, chacune de ces grandes familles de Lévi, serviteur, a un prince pour la diriger. Vous avez cette mention, verset 23, la famille des Gershonites, qui compte derrière le tabernacle, le prince, au verset 24, de la maison des pères des Gershonites, c'est Éléazar. Au verset 29, la famille des fils de Kehat, verset 30, le prince de la maison de père des Kehatites, c'est Elitsaphan. Et pour la famille de Merari, au verset 33, au verset 35, le prince de la maison des pères des familles de Merari était Suriel. Donc un ordre établi dans le service que Dieu donne aux Lévites, un ordre établi et qui remonte jusqu'à un prince dans chaque famille. Le service que nous avons à rendre à Dieu ne dépend pas de notre imagination et de nos arrangements. Nous avons affaire à un lieu d'ordre dans les assemblées, et c'est le Seigneur qui ordonne, qui conduit et qui régit tout ce qui doit l'être. Au temps d'un roi Dieu, il y avait un prince pour la maison du roi, pour les affaires du roi, il y avait un lévite pour les affaires de l'Éternel. Rien n'est laissé à l'imagination de l'homme. L'Esprit de Dieu aujourd'hui nous conduit dans tout ce qui est lié au culte du Seigneur. Sans doute nous n'avons plus un nombre de crochets donnés par le Seigneur pour suspendre un voile. Dans les jours d'autrefois. Mais nous avons bien mieux que ce que l'Éternel donnait comme indication précise. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, l'Esprit que Dieu nous a donné, qui nous conduit de toute manière dans la vérité, et en même temps qui est l'agent divin en nous et dans l'Assemblée pour rendre le culte agréable à Dieu par Jésus-Christ, notre précieux sauveur. Alors nous avons un prince dans chaque famille. Mais, chose remarquable, dans le verset 32, et nous le soulignons en passant, le prince des princes des Lévites était Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Il était établi sur ceux qui avaient la charge du lieu saint. Donc vous voyez ces trois grandes familles de serviteurs, au-dessus de chacune d'elles, plus le cadre qui la régissait sans doute, les chefs des pères, il y avait un prince. Et au-dessus de ces trois princes, quelle droite que celle-là, il y a Éléazar, le troisième fils d'Aaron dont nous voulons parler, il est appelé le prince des princes de la famille des Lévites, le prince des princes des Lévites. De qui l'Esprit de Dieu veut-il nous parler, chers amis? En parlant de quelqu'un qui est un prince des princes, si ce n'est de celui dont Pierre dira, Dieu a fait Seigneur et prince, celui que vous avez crucifié, le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a exalté, Dieu l'a fait asseoir à sa droite, il l'a établi prince et sauveur, et il fera de lui demain que le monde s'en moque, cela ne change rien, que le monde s'y oppose, il aura connaître la puissance de ses armes, car demain il sera le prince des rois de la terre. Je ferai de lui, psaume 89, le prince des rois de la terre. Tous les plus grands rois de la terre devront venir se prosterner devant celui contre lequel ils se sont déchaînés. Aussi bien les fils d'Israël que les nations se sont déchaînés, dira l'apôtre Pierre, pour rejeter, pour mépriser, pour mettre à mort, pour pendre au bois le Saint-Fils de Dieu. Mais celui que l'homme a humilié à ce point n'a perdu aucun de ses droits. Aucun n'est abrogé. Aucun n'a été jeté par terre. Comme fils de l'homme, dans ce titre nouveau qu'il a acquis auprès de ses souffrances et de sa mort, c'est comme fils de l'homme qu'il va paraître. Tout œil le verra et tous devront se prosterner devant lui. Les plus grands potentats de la terre, d'où qu'ils viennent, de Tarsis, de Sheba, de Séba, dans le psaume 72, rien que par ces trois noms, l'Esprit de Dieu nous montre que les trois grandes familles de la terre, fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, chacun par un représentant cité, un des grands rois de ces familles de la terre qui seront présents sur la scène, viendront se prosterner devant lui, lui apporteront des présents et viendront lécher la poussière de ses sandales. Prince des princes, Jésus-Christ, crucifié, exalté à la droite de Dieu, demain va sortir du ciel, à la tête de ses armées, et il porte un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et les armées qui seront liées contre lui, car la fin de la civilisation chrétienne que nous vivons, que nous sommes en train de vivre, dont nous sommes en train de vivre les derniers moments, nous sentons bien que la machine est prête pour la crise finale qui est déjà en quelque sorte commencée. Ce que les hommes appellent la crise de l'énergie, par exemple, pour nous, ce sont déjà des éléments préparatoires de cette crise finale qui va se développer avec une vitesse extraordinaire et au sein de circonstances effrayantes telles qu'il n'y en a jamais eu sur la Terre. Dès que nous serons enlevés de la scène, car je te garderai, c'est une promesse faite à Philadelphie, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui vient sur la Terre habitée tout entière. Nul n'échappera à cette tribulation et à ce règlement de compte qu'il va effectuer lui-même lorsqu'il sera assis sur son tribunal, juge des vivants et des morts. Tous devront comparaître devant lui, tous devront rendre compte devant celui qui a été un homme parfait, qui a le droit de juger tous les hommes, celui qui a été pendu au bras, prince des princes. Dieu a fait Seigneur et Christ, prince et sauveur, celui que vous avez crucifié. Je ferai de lui le plus exalté, le prince des rois de la terre. Et quand il sort du ciel à la tête de ses armées, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est pourquoi celui qui s'est abaissé, qui s'est anéanti lui-même, qui a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, c'est pourquoi de l'épître aux Philippiens qui répond, c'est pourquoi du prophète Isaïe, mon serviteur, j'ai un sage nom. Mais il sera exalté et placé très haut. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessous de tout nom. Et ceux qui seront sur la scène demain, les deux grands chefs qui formeront avec Satan cette trinité satanique, les deux bêtes d'Apocalypse 13, pour être plus clair, et un lecteur attentif de la parole de Dieu sait bien qu'une de ces bêtes monte de la mer, l'autre de la terre, qu'il s'agit du chef de cet ensemble de nations chrétiennes qui sont en train de forger les outils nécessaires à leur réunification pour jouer leur rôle dans la crise finale demain, Dieu mettant dans leur cœur une seule et même pensée. Ce qui est prêt maintenant ira tout à l'heure avec une vitesse extraordinaire, car ils seront poussés par la providence de Dieu pour agir de telle manière qu'ils abandonneront leur souveraineté, car ils donneront trois choses à la bête. La parole de Dieu n'emploie pas des mots synonymes pour nous frapper sans qu'ils aient leur importance propre. Ils donnent leur pouvoir, leur puissance et leur royaume à cette bête. C'est-à-dire, nous parlons du pouvoir politique des nations, nous parlons de leur puissance industrielle, de leur puissance militaire, et nous parlons du royaume en parlant de territoire. Tout sera fusionné, tout ne fera qu'un seul bloc, et ils diront alors tout ce qui se prépare aujourd'hui, les grands courants du monde qui sont à l'œuvre, politique, religieux, culturel, économique, tout pousse dans ce sens pour arriver à cette fin, à ce sommet, à cette apothéose pour eux. Ah, maintenant, nous sommes parvenus au fait de notre puissance, grâce à notre intelligence, à toutes nos ressources mises en commun, à notre génie qui est semblable à l'organisation que nous avons forgée et qui peut se dresser contre nous. C'est alors que le prince des princes sort du ciel et met à néant tout ce que le monde aura connu de grand et dans lequel il pourra s'exalter pour la dernière fois. Sortant du ciel, prend ces deux chefs et sont jetés vifs dans les camps de feu, sans passer par la mort, pris les armes à la main, dans leur révolte, sont jetés dans les camps de feu. Il sera demain ce qu'il est maintenant au ciel et ce que nous avons le bonheur d'anticiper, de reconnaître maintenant. Il sera vu alors dans sa gloire, le Fils de l'homme, ce que Éléazar était en son jour d'une manière typique seulement, sans doute, le prince des princes était Éléazar, dont le nom veut dire secours de Dieu. Le prince des princes, au-dessus de cette famille de Lévite, au-dessus de la sacrificature, celui qui a donné sa vie dans l'épître aux Hébreux, et celui qui maintenant est monté au-dessus de tous les cieux et exerce cette sainte sacrificature en notre faveur, sacrificature d'intercession maintenant, en attendant que ce soit tout à l'heure, selon le rang de Melchisédek, une sacrificature de bénédiction pour la terre tout entière, mais après avoir purifié le vase par le feu, avant de le remplir de sa gloire. Une expression d'un mot devancier. Le vase car il faut qu'il règne. Non seulement l'héritage du ciel, mais l'héritage de la terre. Et ce n'était pas assez pour Dieu de lui donner le trône de David son père. Il lui donne la domination universelle et comme récompense suprême de son cœur, l'épouse. Il l'a donnée comme chef sur toutes choses, au ciel comme sur la terre, à l'assemblée, compagne avec laquelle il rentrait dans la jouissance de tout l'héritage que Dieu lui a donné. Car il a trois titres à la possession de cet héritage. Trois titres qui ne sont pas aliénés, qui ne sont en rien, qui ne portent la moindre altération. Il est d'abord l'héritier de toutes choses. Et voilà. Il est le créateur, et en même temps, le fils de l'homme, celui qui a rajouté l'héritage. Trois titres prestigieux. Fils de Dieu, héritier de toutes choses. Le créateur, c'est pour lui, et par lui que tout a été créé. Et il a racheté l'héritage colossien, sur lequel il va dominer demain avec sa chère assemblée. Mais cela faisait dire à nos chers devanciers cette expression, mais le vase dans lequel la gloire sera manifestée aura d'abord été purifié par le feu. Le troisième passage que nous avons lu de cet homme intéressant, nous espérons que l'histoire vous intéressera quelque peu, car nous en sommes à son début. Au chapitre 4, nous avons encore quelques détails. Au verset 16, Éléazar, fils d'Aaron, sacrificateur, prince des princes, qui a donc l'autorité sur toute la famille, sur les trois princes, sur chacun des princes des grandes familles de Lévi, et sur eux tous, cet Éléazar a donc la surveillance d'abord de l'huile du luminaire. Dans ces quelques versets qui sont devant nous, que nous voulons considérer brièvement, puisque l'heure nous presse, nous avons, chers amis, une application très importante, très sérieuse et très précieuse à faire pour nous tout à la fois. D'abord, la surveillance de l'huile du luminaire. Pas l'huile maintenant de l'onction. Ce sont deux huiles différentes. On sait que l'huile du luminaire, elle était constituée par les olives pures, broyées. Nous le citons en passant pour ceux qui aiment noter. C'est au chapitre 27 du livre de l'Exode que l'huile d'olive pure, broyée, était préparée pour le luminaire. L'huile de l'onction sainte était toute différente. Mais d'abord, l'huile pour le luminaire. Et cette huile, elle provenait de l'olive pure, broyée. Non pas pressée, mais broyée dans un creuset. Or, l'Esprit de Dieu ne nous amène-t-il pas à ce pressoir à olive, Gethsémané, pressoir à olive, pour nous montrer que l'huile du luminaire, autrement dit la lumière maintenant déployée, elle l'est dans ce monde, et elle l'a été à partir de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », mais qui a été rejeté par le monde, qui n'a eu aucune place dans ce monde, pas même un pouce de terrain, si je suis élevé de la terre, dit-il. L'homme, en quelque sorte, lui disant, nous n'avons pas besoin de toi sur la terre. Retourne au ciel d'où tu viens. C'est élevé de la terre qu'il est mort sur une croix. Une étable pour commencer sa carrière et la croix élevée de la terre pour la terminer. La lumière du monde. Et maintenant, nous sommes, dit l'apôtre, lumière dans le Seigneur. Et lumière dans un monde de ténèbres. Car le Seigneur a pu leur dire, c'est ici votre heure. Et le pouvoir des ténèbres. La nuit dans laquelle se trouve ce monde, elle est fort avancée, dit l'apôtre. Le jour s'est approché, le jour du Seigneur. Mais depuis la croix, les ténèbres ont envahi ce monde. Celui qui est le meurtrier et le menteur dès le commencement est devenu le chef de ce monde. Et n'est-ce pas remarquable que la première chose que nous avons devant nous maintenant, c'est précisément l'huile du luminaire, pour nous rappeler que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais que nous sommes lumière. Et que le fruit de la lumière consiste, dit Paul, en toute bonté, justice et vérité. Éphésiens chapitre 4. Alors, première chose que nous avons dans notre passage, c'est donc l'huile du du luminaire. Nous sommes mis à part de ce monde pour être des témoins pour le Seigneur, pour briller au milieu des ténèbres, comme lui a brillé, comme le témoin véritable, fidèle et véritable, son luminaire a brillé dans l'éclat incomparable. D'abord, il est luminaire, ensuite, l'encens des drogues de nos différentes. Et si nous avons un peu plus de temps, chacun peut relire de précieux écrits sur ce sujet, comme cela est riche. L'encens de tout à trois égales, d'abord du stacte, ensuite du galbanum, c'est ce que nous trouvons dans Exode 30, chacun le sait. Il fallait donc mettre de tout à trois égales dans cette constitution des drogues de nos différentes. Nous citons le passage, et le plan au verset 34, il y avait d'abord du stacte, de la croquille odorante, du galbanum, de tout à trois égales, un encens composé. Et ces trois ingrédients nous parlent précisément de ce qu'il a été, de ce qu'il a souffert, de ce qu'il est maintenant. Le stacte, c'est la larme, c'est la mire, c'est une larme de mire réduite dans une étuve, ce qu'il y a de plus intime, de plus profond, de plus caché dans les souffrances du Seigneur, ce que Dieu seul a pu sonder, le stacte. Ensuite, nous avons la coquille odorante que l'on trouve dans les profondeurs de la mer Rouge, descendu dans les profondeurs des eaux que le courant ne submerge pas, descendu au fond du puits de la destruction. La coquille odorante, le galbanum, une drogue qui à elle seule donne une odeur âcre, mais qui mélangée aux autres leur donne leur parfum définitif. Le galbanum, ce qu'il a été dans ce monde, une odeur de mort pour la mort, ce que nous sommes également, odeur de vie pour la vie, odeur de mort pour la mort, de tous à trois égales, toutes les qualités, unies ensemble, sans qu'aucune d'entre elles en altère la moindre mesure dans une autre, de tous à trois égales, pilé très fin. Et il est dit ensuite, cet ensemble était pur, était salé et était saint. Comme trois apôtres vont nous affirmer qu'en lui, il n'y avait point de péché, qu'il n'a commis aucun péché. La loi du Seigneur est revendiquée par Paul, par Jean et par Pierre. Pas de péché commis, pas connu le péché, pas de péché en lui. Dans trois pages capitulaires, l'Esprit de Dieu se plaît à souligner l'excellence de celui qui est annoncé dans l'encens. Tout pidé très fin, il y en avait sur le propitiatoire, ce qui donne de la valeur à ce sang précieux, n'est-ce pas, la gloire, la dignité de celui qui a donné sa vie, dont le sang a été répandu. Deuxième chose, rapidement, après l'huile luminaire, l'encens des roses de différence, c'est-à-dire le culte. Nous ne pouvons pas être heureux, pas être à l'aise dans la présence du Seigneur sans marcher dans la lumière. Leçon très importante. Ensuite, l'offrande de gâteau continuelle. Il fallait offrir matin et soir l'offrande de gâteau faite de fines fleurs de farine que l'on apportait à l'autel avec l'huile et avec tout l'encens sur elle. Et le tout brûlait à l'autel. Et l'on cassait la galette en morceaux, toutes les parties de cette vie, sainte et pure, présentée à Dieu, présentée à l'autel. Et quelle grâce pour nous, chers amis, le reste de l'offrande est l'éternel. En parlant de l'offrande de gâteau, de ce qui annonce la sainte humanité qu'il allait revêtir, dans laquelle il allait glorifier Dieu, avec laquelle il est monté maintenant au-dessus de tous les cieux, car il y a un nom au ciel, qui porte ce nom, ce nouveau nom de Seigneur Jésus. Car Jésus n'était pas connu au ciel avant qu'il descende et qu'il prenne place dans les tables. C'est son nouveau nom, le nom de Seigneur Jésus, devant lequel nous devons se prosterner. L'huile luminaire, l'encens, ensuite, ce que nous avons pour terminer, l'offrande de gâteau continuel, ce qu'il est dans la sainte humanité qu'il a revêtu, donc qu'il a revêtu, l'huile ensuite de l'onction. Et cette huile de l'onction, vous la trouvez dans l'Exode 30, fait aussi d'ingrédients extrêmement précieux pour nous parler du Saint-Esprit qui rend témoignage à la bonne odeur de Christ dans toute la maison de Dieu. Et avec lequel Dieu nous a scellés et nous conduit. De telle sorte que nous pouvons dire maintenant ce qui était dit à cette famille d'Aaron, du jour qu'il les aura vaincus, Quelle était leur nourriture? C'est une chose extraordinaire et combien précieuse pour vous, chers grands amis. Du jour qu'ils avaient été témoins, du jour qu'ils avaient été approchés, le passage de tour en Lévitique 3, si nous avons bien retenu, à la fin de nom. Donc, c'est la fin du chapitre 7 pour leur plan de sacrifice de postérité. Du jour qu'ils les auraient approchés, du jour qu'ils les auraient loin, que pouvaient-ils et qu'avaient-ils à manger? Ah, combien cela est précieux pour nous. Ils se nourrissaient. Du jour, dès l'instant où ils avaient été témoins, dès l'instant où ils avaient été approchés, leur nourriture était la poitrine et l'épaule du sacrifice de prospérité, en vertu de l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons le privilège de nous nourrir avec Dieu, de la puissance de celui qui a remporté la victoire sur celui qui détenait le plus puissant des pouvoirs dans ce monde, c'est-à-dire la mort. Nous nourrissons de l'épaule, de la puissance de celui qui a remporté cette victoire définitive. Et nous nourrissons de la patrie, de l'amour éternel, insondable de notre Sauveur. L'huile de l'onction et en même temps la surveillance de tout le tabernacle en tout ce qui est. Car dans l'assemblée, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous avons affaire à celui qui est le véritable Éléazar, le chef que nous avons à suivre, que nous avons à obéir et puissions-nous tous le faire à ses bras.